voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et le grand rendez-vous va débattre ce soir de la fin de la 11e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le virus est-il définitivement terminé ou faut-il s'attendre à un prochain cycle ? Difficile à dire. Avant d'ouvrir le débat sur cette question avec nos invités, parlons d'abord de la Corne de l'Afrique. En Éthiopie, l'armée lutte depuis quelques jours contre le TPLF. C'est le Front de libération du peuple du Tigré, accusé par le gouvernement de défier le pouvoir fédéral. Pour mieux comprendre les raisons de ce conflit, je vous propose d'écouter ce qui va suivre.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Marc Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, et spécialiste de la Corne de l'Afrique. L'armée éthiopienne est en conflit avec le gouvernement du Tigré. À l'origine, l'organisation, le mois dernier, par les autorités régionales, de l'élection de ses 190 députés, et ce, alors même que le scrutin au niveau national a été reporté pour cause de Covid-19. Comment expliquer ce que le gouvernement fédéral a perçu comme une défiance ?
Les Tigréens ont considéré que le Covid n'était qu'un prétexte et qu'en réalité, le gouvernement central ne voulait pas convoquer ces élections qui devaient consacrer à la fois le Premier ministre, M. Abiy Ahmed, et aussi la nouvelle orientation du pays et qui conduisait, d'après les Tigréens, à leur marginalisation. Il ne faut pas oublier que les Tigréens ont dirigé pendant 30 ans l'ensemble du pays, alors qu'ils ne sont que 6% de...
C'est une minorité.
C'est une minorité qui a beaucoup profité de son pouvoir, qui a exercé ce pouvoir d'une manière assez brutale, je dirais, et qui a beaucoup profité financièrement aussi de ce pouvoir. C'est-à-dire pas tous les Tigréens, mais en tout cas l'élite tigréenne a beaucoup... acquis par la corruption, par l'investissement de biens. Et donc, c'est attiré une certaine jalousie ou une rancœur de la part des autres peuples d'Éthiopie. Et quand M. Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir en 2018, eh bien, les dirigeants tigréens ou les responsables ou l'élite tigréenne ont considéré que c'était une menace pour leurs intérêts et ils ont décidé de se retirer dans leur pays d'origine, le Tigré, pour y préparer la résistance et peut-être aussi un nouveau projet qui est celui d'un Tigré indépendant, d'un grand Tigré indépendant.
Donc, si j'ai bien compris, c'est cette rivalité qui semble ethnique, c'est-à-dire entre la minorité tigréenne et la majorité Oromo, dont est issu l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed, est en réalité une vraie lutte pour le contrôle du pouvoir.
C'est une lutte pour le contrôle du pouvoir et des richesses. Alors, qui prend une tournure ethnique, si vous voulez, mais finalement, c'est un petit peu secondaire, contrairement à l'idée qu'on peut en avoir généralement. Vous voyez, le Tigré est le cœur de l'Éthiopie. Même si aujourd'hui, il est au nord du pays, historiquement, depuis 2000 ans, c'est le Tigré qui a constitué l'Éthiopie. Donc, il y a un sentiment de désagrégation et de perte de pouvoir chez les Tigréens.
Le TPLF a revendiqué des tirs sur l'aéroport d'Asmara. Est-ce que aujourd'hui on peut éviter la régionalisation de ce conflit ?
Ah oui, tout à fait, parce que vous savez, le conflit qu'il y avait entre l'Éthiopie et l'Érythrée qui voulait son indépendance, c'était aussi une affaire de famille, parce que tout ça était l'ancienne Abyssinie traditionnelle, qui était un État assez centralisé, comme je viens de le dire, et l'Érythrée était une marche de savoir en Érythrée, comme ils le sont au Tigré, comme ils l'étaient en Éthiopie. Hein. Mais ce sont des frères ennemis.
L'Érythrée, entre-temps, avec le président Isaias Afewerki, s'est rapproché plutôt du gouvernement éthiopien.
Mais justement, ça vous montre d'une part que ce n'est pas un conflit ethnique, puisque des Tigréens comme M. Afewerki se rapprochent du gouvernement central. Si vous voulez, dans chacun de ces pays, Il y a le souci d'éviter l'éclatement des pays.
Comment interprétez-vous les accusations du chef d'état-major de l'armée éthiopienne selon lesquelles le directeur de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, originaire du Tigré, soutiendrait et armerait même le TPLF?
Écoutez, je ne vois pas comment un médecin directeur de l'OMS pourrait armer un mouvement rebelle qui s'est armé lui-même depuis fort longtemps, puisque, encore une fois, il est né dans les années 80 dans les maquis d'Érythrée et il a eu tout le loisir de récupérer le matériel de l'armée nationale, de former ses cadres. Et on n'a pas besoin de l'aide de l'OMS. On ne voit pas très bien comment, d'ailleurs...
Vous semblez dire que ces accusations ne sont pas fondées. Est-ce qu'elles viseraient finalement à forcer M. Ghebreyesus à prendre ouvertement position et peut-être à se désolidariser clairement du TPLF?
Oui, je pense qu'il peut le faire. Il y a un moment où chacun doit prendre ses responsabilités et tous les Tigréens ne sont pas au TPLF. Loin de là.
Jusqu'à présent, le gouvernement éthiopien refuse des propositions de médiation. Comment voyez-vous l'issue de ces affrontements ?
Je comprends très bien d'ailleurs que le gouvernement éthiopien refuse une médiation parce que il sait très bien que c'est une lutte qui est décisive pour l'avenir de l'Éthiopie. Soit l'Éthiopie se fragmente, éclate et cette fédération ethnique se perd dans des combats internes, soit on élimine le danger tigréen une fois pour toutes. Alors c'est un peu difficile à dire parce qu'en général on préfère la négociation à la guerre.
Merci beaucoup.
Compris.
Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
La question que nous allons évoquer dans ce numéro de grand rendez-vous, c'est comment mettre définitivement fin à l'épidémie d'Ebola en Afrique et particulièrement en RDC. Nous avons invité pour cela les principaux acteurs ou les principales entités impliquées dans la lutte contre ce virus. D'abord, l'OMS avec son représentant en Guinée, professeur Georges Alfred Kizerbo. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes en ligne de Conakry. Merci également à vous, Guigui Maniangama, responsable médical de la cellule d'urgence de MSF à Toulouse, ici en France. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, madame.
Et nous avons le plaisir également d'accueillir le professeur Jean-Jacques Mouyembe, virologue, coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus en ligne de Kinshasa. Bonsoir, professeur Mouyembe.
Bonsoir, madame.
Mais je dois rappeler que votre nom est associé à la lutte contre Ebola, également en République démocratique du Congo. Et c'est d'ailleurs à vous que je vais poser la première question, professeur Mouyembe, puisque nous parlons de l'épidémie, la fin de l'épidémie dans votre pays, la RDC. Alors, le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a félicité les autorités congolaises, dont vous. Il y a également le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta aux États-Unis, qui a qualifié d'ailleurs de grandes réussites, le fait que votre pays ait réussi à contenir une épidémie en parallèle de la lutte contre le Covid-19. C'est probablement réconfortant, non?
Ah oui, c'est réconfortant et nous sommes fiers pour cela.
Mais est-ce que vous vous dites néanmoins que nous risquons de revivre ce cycle?
Bon, c'est-à-dire, oui, la possibilité d'avoir la 12e épidémie est là. Nous ne pouvons pas exclure.
Mais pourquoi est-ce que à chaque fois ce virus qu'on croit parti revient? Qu'est-ce qui fait que on assiste depuis lors à un retour de cette épidémie? Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, avec l'expérience, les moyens de prévenir, d'anticiper, de se dire même si cette épidémie arrive, on sait au moins quelle en sera l'ampleur et à quel moment elle pourrait se signaler?
Bon, il est vraiment difficile de faire des prédictions parce que jusqu'à présent, nous ne connaissons pas le réservoir ou le vecteur, n'est-ce pas, du virus Ebola. Nous avons mené des études écologiques, etc., fait plusieurs prélèvements chez les chauves-souris parce qu'on soupçonnait les chauves-souris comme réservoir de virus. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve, aucune évidence scientifique que les chauves-souris sont donc les réservoirs du virus. Aussi longtemps que nous ne connaissons pas les réservoirs du virus, ce sera toujours des surprises pour tous les pays là du bassin du fleuve Congo et également les bassins du Nil.
Merci. Professeur Kizerbo, alors le professeur Muyembe disait qu'on ne sait pas on n'en sait pas plus sur le réservoir ni les vecteurs. Est-ce qu'il y a des recherches précises dont vous avez connaissance au niveau de l'OMS sur ces aspects pour permettre que on n'assiste pas à chaque fois à cette déclaration de fin de l'épidémie, puis quelques mois ou quelques années après, on revient à un autre cycle?
Oui, merci madame. Je voudrais d'abord me féliciter d'être aux côtés du professeur Muyembe, notre éminent chercheur et grand maître en matière de maladie à virus Ebola, mais en tout cas de recherche aussi fondamentale en virologie, en fièvre hémorragique virale. Effectivement, nous nous trouvons ici à l'interface de l'écosystème humain, animal et aussi de l'environnement. C'est pourquoi, effectivement, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de résurgence de maladies. Donc, ces maladies sont des maladies émergentes et réémergentes. C'est pourquoi, à cause de l'activité des hommes, à l'interface donc du règne animal et de l'écosystème et de l'environnement, il est toujours possible d'avoir ces éclosions, ce qu'on appelle un peu le phénomène d'intrusion. C'est l'homme qui, en s'avançant dans ses activités, va parfois à la rencontre de ses réservoirs naturels et peut donc par la suite ramener dans la communauté ces germes-là. Les recherches se poursuivent pour savoir également quel est le germe. Mais quelle est l'importance de la recherche? La recherche fondamentale pour savoir le cycle de transmission est importante. Mais la recherche aussi est importante pour avoir des outils, par exemple comme les vaccins qui ont pu être développés à la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Donc on peut aussi rechercher des moyens pour mieux se préparer, mieux détecter et mieux riposter aux maladies. Donc c'est toute une chaîne la recherche, hein, la recherche fondamentale sur les origines, la recherche sur l'évolution génétique, par exemple, de ces virus, comment ils font des mutations, mais aussi les moyens plus opérationnels, les outils qu'il faut ajouter à l'arsenal et qui permettent aujourd'hui, en vaccinant, par exemple, comme on l'a fait en ceinture autour des cas et des contacts, de restreindre l'expansion de ces épidémies, comme on l'a vu en Afrique de l'Ouest en 2014-2016. Donc je crois que les innovations sont en cours et la recherche est fondamentale à tous les niveaux pour mieux comprendre, mais aussi pour mieux détecter, mieux préparer et mieux riposter à ces maladies émergentes et réémergentes.
Professeur, comment, Kizerbo, comment expliquer qu'on ait pu mettre sur pied un vaccin aujourd'hui qui est administré, mais que la recherche au niveau du médicament et du traitement semble vraiment à un stade encore, on va dire, primaire?
Oui, je vais parler sous le contrôle aussi du professeur, mais je crois qu'il y a des recherches importantes en matière de médicaments aussi, en particulier.
Dans ce cas, à quelle phase sommes-nous aujourd'hui?
Oui, je crois que les recherches sont assez avancées. Le problème de la recherche sur les médicaments, c'est aussi l'accessibilité et aussi le passage à l'échelle dans certaines de ces solutions médicales. Et comme vous le savez, on dit en santé publique et dans beaucoup d'autres sagesses, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc la méthode préventive sera toujours la meilleure pour protéger non seulement les individus et les communautés, mais on voit que aussi avec la COVID-19 actuellement, il y a des solutions médicamenteuses. Donc la recherche couvre tous les trois piliers, que ce soit le diagnostic, les médicaments et les vaccins. Donc, c'est une approche holistique qu'il faut avoir et des médicaments fondés aussi sur, par exemple, les anticorps chez les patients guéris ont pu être examinés et je crois que ces recherches se poursuivent en parallèle.
Mais au regard de tout ce qui circule et de la prudence des uns et des autres sur les vaccins, on a hier par exemple, nous parlions dans cette émission de la position de l'Afrique sur la course aux vaccins annoncée par les laboratoires. On s'est rendu compte en écoutant les experts qu'il y a une prudence de plus en plus forte des populations africaines envers les vaccins. Peut-être que l'occasion de dire qu'il faut peut-être aussi privilégier la piste traitement, professeur Kizerbo. Je reviendrai vers vous. Le temps de donner la parole à Guigui Manangama. Vous êtes là, monsieur Manangama ?
Oui, je suis là.
Alors, à la question de savoir comment éviter une nouvelle résurgence, avec ce qu'on vient d'écouter, il est clair que on n'en est pas à l'abri et qu'on devrait peut-être assister à la 12e épidémie d'Ebola à RDC. Est-ce que ça vous donne des craintes ? Est-ce que vous êtes inquiet ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur Ouyembe vient de dire et le professeur Guizerbo. Concernant la résurgence d'une nouvelle épidémie, nous sommes dans cette partie nord-ouest de la République. Il y a eu une dernière épidémie en 2018 et deux ans après, il y a eu une autre. Et sans ces deux-là, il y en a eu d'autres encore dans le passé. Donc, je crois que c'est le moment de se préparer et de continuer à se préparer davantage.
Est-ce que ça n'inquiète pas des ONG comme vous, le Médecins Sans Frontières, qui est très impliqué aussi dans la prise en charge, la construction des centres de traitement ? Ça vous donne du fil à tordre, peut-être même. Est-ce qu'on ne pourrait pas assister à une certaine lassitude de la part des organisations comme la vôtre si on est dans un cycle à répétition de cette épidémie ?
Oui, c'est pour cela. Je pense qu'il y a la surveillance qui doit être renforcée, même en période hors épidémie. Là, on vient de déclarer la fin de la 11e, mais nous, au sein de MSF, nous avons maintenu le contact avec les autorités congolaises, avec l'INRB. Nous allons continuer à discuter pour essayer de se préparer s'il y a une autre épidémie qui arrive. Donc, de notre côté, en ce qui concerne la réponse aux épidémies, on s'est dit que non, c'est une période qui doit être mise à profit, notamment pour capitaliser toutes les connaissances et tout ce qui a été réalisé pendant les dernières épidémies pour qu'on soit prêt pour les prochaines, notamment avec les innovations. Comme ils viennent de le dire, mes prédécesseurs, notamment il y a le vaccin, il y a les traitements qui sont développés. Et concernant concernant la prise en charge, il y a un certain moment, on savait que la prise en charge des patients, c'est limité à l'isolement des traitements symptomatiques. Mais là, on a de plus en plus des outils pour combattre la maladie.
Merci, Monsieur Manangama. Professeur Mouyembe, qu'est-ce qui est possible d'anticiper aujourd'hui ?
Ben, écoutez, je crois que nous avons fait beaucoup de progrès. Pour nous, Ebola n'est plus cette maladie qui tue et qui effraie. Parce que avec l'expérience que nous avons faite lors de l'épidémie de Nord, Sud, Kivu et Ituri, nous avons développé, nous avons d'abord prouvé que le vaccin Merck, le RVS, le Merck, qu'on avait utilisé en Guinée, était un vaccin très efficace. Il pouvait protéger jusqu'à 97% d'individus.
Je crois 97%, exposés. C'est 97%.
oui. Alors, et puis, y a encore un deuxième vaccin que nous sommes en train d'essayer, qui est le vaccin Johnson & Johnson, qui peut être donné de façon massive dans la population. Alors, sur les plans thérapeutiques, je crois que le plus grand progrès qu'on a fait, qu'on a prouvé, par des essais cliniques, qu'il y a deux molécules qui sont très efficaces, c'est le Regeneron, qui est développé par une firme américaine, et l'anticorps monoclonal que nous avons appelé MAB-114, que nous avons développé ensemble avec NIH, n'est-ce pas, aux États-Unis, que l'INRB au Congo a développé avec l'institution NAS aux États-Unis.
Merci.
Et donc, c'est comme ça que maintenant, la mortalité, au cours des épidémies, la mortalité est vraiment...
A chuté. Merci beaucoup.
Oui, oui.
D'accord, la mortalité a chuté avec une amélioration, grâce à l'amélioration de la prise en charge. C'est l'heure d'accueillir Edouard Ning pour les questions des auditeurs. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Liliane, bonsoir à tous.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et c'est toujours avec nos invités, professeur Jean-Jacques Mouyembe, virologue et coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, professeur Alfred Kizerbo, représentant de l'OMS en Guinée, au téléphone depuis Conakry, et Guigui Manangama, responsable médical de la cellule d'urgence de MSF à Toulouse, ici en France. Edouard, le débat, c'est également sur nos réseaux sociaux et nous avons plusieurs questions. Vous en avez retenu deux. D'abord, celle de Abdoulaye.
Exactement, Liliane. Abdoulaye qui demande au docteur Mouyembe, est-ce que le système sanitaire de la RDC pourra se relever après cette double crise sanitaire, d'autant plus que le pays craint une deuxième vague avec le Covid-19?
Bon, je peux répondre?
Oui, professeur Mouyembe, allez-y, la question vous est adressée.
Oui, je pense que ce sera difficile. Nous devons beaucoup travailler parce que le système est vraiment faible. Il y a l'effondrement dû à plusieurs crises, d'abord politiques et puis crises économiques. Et nous sommes donc en train de travailler pour...
Et la crise sécuritaire aussi.
Insécuritaire également. Voilà, vous ajoutez quelque chose, un élément important. Et donc, nous sommes en train de travailler pour relever tous ces défis.
Et vous vous inquiétiez justement de ce que, si le système de santé n'est pas mieux organisé, n'est pas renforcé, on risque le pire, professeur Mouyembe.
Oui, c'est pour cela que la deuxième vague, là, nous inquiète beaucoup. Et vraiment, toutes les précautions sont prises pour qu'il y ait d'abord un engagement, n'est-ce pas, de la population, une bonne perception de la maladie par la population et l'implication de la population dans le respect, n'est-ce pas, de toutes les mesures de santé publique recommandées par le gouvernement.
Est-ce que
et
vous...
Donc, oui,
allez-y, professeur, oui. Pardon, allez-y.
Non. Donc, nous disons que nous travaillons vraiment avec la population et les autorités pour que, qu'il y ait vraiment une conscience nationale élevée pour envisager donc de faire face à cette deuxième vague.
Est-ce que la crise politique que traverse la RDC depuis quelques années et puis particulièrement ces dernières semaines, est-ce que cette crise a une incidence particulière sur la lutte contre le coronavirus?
Bon, vous savez, en Afrique, tout est politique, hein, donc la politique joue un rôle très important. Et si la politique n'est pas au rendez-vous, il y aura...
C'est-à-dire lorsque les camps se battent, il n'y a pas de planification, on ne pense pas beaucoup à renforcer le système sanitaire et à protéger les Congolais.
Exactement.
Oui. Edouard, deuxième question.
Une deuxième question, Liliane, de Stéphane Tsimba pour M. Manangama, qui lui demande, hein, est-ce que l'expérience acquise lors de la lutte contre les précédentes épidémies, notamment Ebola, peuvent servir à lutter contre la Covid-19, M. Manangama?
Oui, merci pour la question. Je crois qu'il y a une notion très importante, tout doit s'organiser autour de la communauté. Je pense que le professeur Mouyembe vient de le mentionner. La partie surveillance, prévention ou surveillance à base communautaire, où la population doit activement participer, notamment à transmettre, donc utiliser les réseaux sociaux qui existent, notamment les églises, les différents groupes, pour faire transmettre, pour faire passer le message de prévention. Je crois que ça, être auprès de la population pour accepter, notamment après, il y a la question de la vaccination, qui peut venir après, sur l'acceptance. Il y a tous ces éléments qui, sans un effort auprès de la population, ça peut être vain. Donc je crois que même sur nos stratégies Ebola avec des centres de traitement, il faudrait, donc on a beaucoup travaillé sur la partie promotion de la santé, travail auprès de la population pour faire passer nos messages pour l'acceptance. Donc je pense que ça serait la même expérience qui peut être aussi appliquée. Je crois que c'est déjà le cas, mais ça nécessite juste d'être renforcé pour la partie Covid combattre cette maladie.
Merci beaucoup à vous, Édouard Bérangénine, pour ces questions. Et avant de retrouver le professeur Kizerbo à Conakry, je vais vous poser une autre question, Monsieur Guigui Manangama. Vous parliez de la sensibilisation des populations. On sait que les centres de traitement, notamment à RDC et même ailleurs en Guinée, pour le centre de traitement d'Ebola, ont souvent été attaqués par des groupes armés et même par des populations. Il y a eu parfois des difficultés de la part des populations de comprendre pourquoi certaines familles ne peuvent pas entrer en possession des corps de leurs proches pour les enterrer dignement et conformément aux rites traditionnels. Est-ce qu'avec ces différentes épidémies, il y a eu une meilleure compréhension aujourd'hui, une meilleure communication entre vous, les organisations qui travaillent dans ces épidémies et les populations?
Oui, je crois qu'il y a l'approche qui doit changer. Au tout début, le système était centralisé autour des grands centres de traitement, de plusieurs lits qui avec un système beaucoup plus opaque, qui notamment avec l'historique, on sait que le traitement n'était pas avancé sur la partie traitement. Et il y a la mortalité qui était très élevée, c'était un peu comme entre guillemets de mourir. Les gens, la mortalité était très élevée.
Donc du coup, les populations pensaient que aller dans les centres de traitement, c'est le chemin le plus rapide vers le cimetière.
Oui, alors pour cela, donc je pense qu'on a de plus en plus développé la partie promotion de la santé et le traitement a été, la partie prise en charge a beaucoup avancé. Donc les chercheurs ont beaucoup travaillé, ce qui fait que non, la mortalité a sensiblement réduite. Donc les centres de traitement sont des vrais centres de traitement actuellement. Et puis nous avons développé aussi la stratégie de décentralisation, notamment au lieu de faire des grands centres de traitement. Après les épidémies, ces succès ne se ressemblent pas. Par exemple, en Équateur, c'était vraiment adapté pour nous de faire des petits centres de traitement de 4, 5 lits, 10 lits au maximum, où on isolait des patients au plus proche d'eux. Donc ne pas centraliser tout au niveau, par exemple, du district ou de la zone des santé, mais dans les aires des santé, aller au plus proche des patients, faire des microstructures et dans leur environnement. Et ça suscite, alors quand les patients, avec le traitement qu'on a pu administrer, la prise en charge, les patients qui sortaient guéris, ça améliorait cette partie sur l'acceptabilité.
Donc vous avez revu un peu votre stratégie d'approche et voilà, ça a créé moins d'hostilité de la part des populations. Professeur Kizerbo, vous êtes là, vous m'entendez? Allô, professeur Kizerbo?
Oui, allô, je vous entends.
Voilà, le professeur Mouyembe a clairement dit qu'il faut se préparer à une prochaine épidémie d'Ebola en RDC, même si on ne sait pas quand. Qu'en est-il de la Guinée aujourd'hui, qui a également connu l'épidémie d'Ebola?
Oui, je pense que les pays de la Guinée, du Sierra Leone, du Libéria, qui ont été à l'épicentre de l'épidémie qui a ravagé de 2014 à 2016, ont mis en place des systèmes coordonnés pour la préparation, la riposte aux futurs défis. Et ces systèmes sont en train de fonctionner actuellement et les leçons tirées d'Ebola sont en train d'être utilisées sur le terrain pour la riposte, par exemple, à la COVID-19. Les équipes de réponse rapide, les équipes de surveillance, de suivi des contacts, les équipes pour la prévention et le contrôle des infections dans les formations sanitaires, mais aussi la dimension de communication sur les risques que le collègue vient de mentionner et d'engagement communautaire qui est la clé parce que les épidémies naissent et prennent fin dans la communauté. C'est donc important d'associer la communauté, de lui redonner confiance, et de l'amener à collaborer et même d'utiliser les savoirs traditionnels, les moyens de communication traditionnels pour que la confiance soit établie et qu'on évite effectivement des revers qu'on a vus par le passé. Donc
associer peut-être les anthropologues.
Voilà, les socio-anthropologues sont maintenant intégrés aux équipes. Ils ont tiré les leçons et on continue à documenter les perceptions de la communauté, y compris sur la COVID actuellement, pour réappliquer ces connaissances et ces savoirs-là à la riposte. Donc c'est une boucle permanente d'acquisition de savoirs, de leçons apprises qui sont réappliquées aux opérations pour arriver à ces résultats. Et je pense que, comme on l'a dit, l'innovation joue aussi un rôle clé. À chacune des épidémies, il y a eu des avancées. On a eu les tests de diagnostic rapide qui ont permis d'aller plus rapidement sur le terrain, de mieux détecter. On a les nouvelles solutions thérapeutiques. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas s'appuyer uniquement sur des solutions techniques. Il faut une approche de toute la société. Et donc, c'est cette approche basée sur les déterminants sociaux, culturels de la maladie qui permet d'avoir les résultats les plus, avec le plus d'impact et les plus durables.
Merci.
Et la COVID nous a montré que la santé est un bien commun, c'est vrai. Et c'est aussi non seulement une conséquence du développement, mais c'est aussi un des déterminants du développement. Nous voyons l'impact difficile en termes de perte de vie humaine, mais aussi en termes de perte d'emploi dans le secteur
informel. Les conséquences économiques,
et donc,
effectivement.
Les conséquences socio-économiques sont énormes. Et donc la santé maintenant à l'agenda mondial est considérée comme l'un des piliers.
C'est pourquoi
le secrétaire général des Nations Unies a dit qu'il faut rebâtir mieux en mettant la santé au centre de l'agenda de développement, mais aussi de l'humanitaire et de la sécurité.
Professeur Kizerbo, je vais vous poser une question qui peut paraître banale, mais je souhaite que vous donniez une réponse courte parce qu'on va bientôt marquer une autre pause. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'épidémie d'Ebola qui a touché 3 autres pays en dehors de la RDC, pays Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Guinée, aussi la Sierra Leone. Mais pourtant, depuis, il n'y a pas eu une résurgence de l'épidémie. Pourquoi toujours la RDC ? Est-ce qu'il y a une explication scientifique ? Parce que depuis là, la RDC en a connu en 2018 et maintenant encore la 11e vague.
Oui, je pense que il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Je crois, comme disait le professeur Mouyembe, le bassin du fleuve du Congo est une zone riche en termes d'écosystèmes. C'est une zone aussi, je crois, de rencontres. Hein. C'est une zone d'émergence, comme on dit souvent, où les activités humaines peuvent amener des populations en contact avec la faune, avec un environnement qui est favorable.
Merci.
En Afrique de l'Ouest, les bassins forestiers sont plus réduits, mais ce qu'on a vu, par contre, c'est qu'on a vu l'émergence d'Ebola dans les grands centres urbains. Et c'est ce qui explique le nombre de cas importants qu'on a eu entre 2014 et 2016, où on a jusqu'à près de 25 000 cas entre les trois pays. Et 11 000 décès. Donc,
l'écosystème
étant différent, je crois que ça n'exclut pas qu'il y ait quand même une vigilance. Et donc, il y a des projets pour surveiller, non seulement au niveau humain.
Et c'est la question que j'allais justement poser au professeur Jean-Jacques Mouyembe. Quand on sait très bien d'où partent ces foyers d'épidémie, qu'est-ce qu'on peut faire en quelques mots pour que ces foyers-là soient moins susceptibles peut-être d'être le point de départ d'une autre épidémie?
Oui, oui. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il nous faut, c'est surtout être bien préparé, de sorte qu'à faire une détection rapide, lorsque un cas suspect apparaît, il est vite détecté, prélevé, et puis les laboratoires sont à côté, on fait les diagnostics. En ce moment-là, on arrête. Au lieu que l'épidémie s'étende, on a quelques cas et l'épidémie s'arrête. Avec les innovations que nous avons actuellement, on peut donc arrêter une épidémie qui peut faire seulement un ou deux mois.
Mais là, il faudrait compter sur la collaboration des populations, parce que si le premier cas ne se signale pas, c'est un problème.
Exactement. C'est comme ça. Donc, on forme donc les équipes. Nous appelons les communautaires qui restent donc dans la communauté et qui peuvent faire la notification des cas suspects, etc. Les infirmiers sont là, on prélève les échantillons et puis on envoie au laboratoire. Alors, mais je crois que le message le plus important, c'est la formation, la sensibilisation des chasseurs, la sensibilisation des fermiers, des agriculteurs qui entrent en contact avec les animaux trouvés morts en forêt.
Et qui sont susceptibles de transmettre l'épidémie d'Ebola. Donc, professeur, on marque une pause, on vous retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et votre émission se poursuit avec nos invités, Guigui Manangama, responsable médical de la cellule d'urgence de MSF Médecins Sans Frontières à Bordeaux, en France. Professeur Georges-Alfred Kizerbo, représentant de l'OMS en Guinée, qui est en ligne de Conakry. Et le professeur Jean-Jacques Mouyembe, que nous allons retrouver également. Professeur Jean-Jacques Mouyembe, virologue et coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus en ligne de Kinshasa. Et je disais, professeur, en début de cette émission, que votre nom est également associé à la lutte contre Ebola. Nous vous avons interrompu tout à l'heure pour la pause. Alors, professeur Mouyembe, quels ont été les principaux, les gros défis que vous avez eu à surmonter pour venir à bout de cette 11e épidémie?
Alors, pour la 11e épidémie, le plus grand défi, c'était un défi logistique. Parce qu'en fait, cette épidémie est survenue dans une région vraiment marécageuse et les foyers étaient dispersés.
C'était dans l'Équateur vraiment... et on parlait d'une douzaine de centres de santé touchés sur 18?
Oui. Donc, c'était vraiment difficile de pouvoir atteindre ces foyers et également la mobilité de la population. Donc, c'est une population de pêcheurs. Donc, les pêcheurs se déplacent très facilement. Aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont quelque part. Alors, pour suivre les contacts, c'était vraiment difficile. Bon, heureusement que la population a vite compris et nous avons donc eu l'engagement, n'est-ce pas, des communautés et également les autorités politico-administratives ont beaucoup contribué, bien sûr, à nos partenaires habituels, les partenaires techniques et financiers étaient là, ce qui nous a permis donc de vite mettre fin à cette épidémie, d'autant plus que nous avions également et les vaccins et les molécules pour les traitements.
Et comment est-ce que le système de santé a dû se réorganiser? Comment est-ce que vous avez dû réorganiser vos ressources alors que le pays était déjà confronté depuis mars à l'épidémie de COVID-19? À la pandémie.
Bon, mais écoutez, parce qu'en fait, ce sont les mêmes équipes qui avaient participé à la lutte contre la maladie à virus Ebola à l'est du pays. Ils sont venus donc, et donc nous avons utilisé à peu près les mêmes stratégies et un personnel vraiment motivé qui a donc contribué à vite mettre en place un système fiable. Et c'est pour cela que donc l'épidémie a été donc maîtrisée
rapidement, circonscrite. Monsieur Manangama, quelle a été la contribution de MSF Médecins Sans Frontières? On sait que vous êtes présent à chaque fois qu'il y a une épidémie, mais cette fois, quelle est la nature de votre contribution pour circonscrire rapidement et endiguer cette autre épidémie? Et qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour être plus efficace si demain ou après-demain, on devrait avoir à gérer en RDC ou ailleurs une autre épidémie d'Ebola?
Oui, merci madame. Notre contribution, on a eu déjà des équipes lors de l'épidémie du Nord Kivu. Donc, ils ont contribué à la fin de cette épidémie. Et donc, du coup, on avait entre nous-mêmes des équipes expérimentées qui ont été transférés directement pour travailler en collaboration avec avec les équipes du ministère qui étaient déjà en place pour contenir cette épidémie. Donc nous avons fait organisé la prise en charge et comme je l'ai mentionné, c'était une prise en charge qui était décentralisée auprès de patients. Donc pour une prise en charge qui centrée sur le patient, avec des structures de prise en charge construites au niveau des aires de santé ou dans des zones de santé dans certains cas pour prendre en charge rapidement les patients.
Est-ce que vous avez eu à mobiliser rapidement les bailleurs pour financer cette lutte parce que compte tenu du fait que c'est une épidémie qui revient souvent, est-ce que les bailleurs ne sont pas un peu essoufflés? Est-ce que cette fois vous avez eu du mal à mobiliser les fonds peut-être?
Bon, avec MSF, c'est un fonctionnement. Nous fonctionnons majoritairement sur des dons personnels, donc des individus. Donc là, c'est pas, on n'a pas eu de problème pour mobiliser le fonds. Donc nous, on est préparé à répondre aux épidémies rapidement dans ces circonstances.
D'accord. Donc même si les prochaines arrivaient, vous ne manqueriez pas de moyens, de ressources pour soutenir les gouvernements?
Bon, nous avons une équipe d'urgence qui est préparée, qui est prête à ça. Donc, en ce moment, donc on s'est dit, on est en période post-épidémie, mais on reste en éveil. Il y a nos équipes qui sont au Congo, qui travaillent dans d'autres projets, qui peuvent être dans l'immédiat mobilisés en cas d'une autre épidémie.
En une minute, professeur Kizerbo, quel rôle, quelle contribution peut apporter l'OMS aujourd'hui pour que ces épidémies, si elles arrivent en RDC ou ailleurs en Afrique, puissent être très très rapidement circonscrites pour éviter une large contamination?
Oui, comme vous le savez, après l'épidémie de maladie à virus Ebola de 2014 à 2016, un programme des urgences a été renforcé au sein de l'OMS aux trois niveaux de l'organisation, donc au siège à Genève, dans les 6 bureaux régionaux et aussi dans tous les bureaux pays. Donc, dès qu'une maladie potentielle épidémique est déclarée, a fortiori une maladie de caractère de menace internationale, donc une urgence de santé publique de portée internationale, immédiatement le programme des urgences de l'OMS est mis en branle au niveau pays, au niveau régional et au niveau du siège à Genève. Les équipes sont projetées rapidement pour venir en assistance aux coordinations nationales de riposte. Et comme vous le savez aussi, des plans de préparation sont mis en œuvre dans le cadre des compétences du règlement sanitaire international. L'OMS travaille avec tous les États membres pour renforcer leur capacité de préparation, de détection.
Merci.
Et de riposte.
Merci beaucoup, professeur. Pardon de vous interrompre. On n'a plus qu'une petite minute pour accorder un mot de conclusion au professeur Jean-Jacques Mouyembe. Mais professeur, vous insistiez sur la nécessité de renforcer aussi les structures de santé pour mieux répondre à une possible épidémie. Il y a aussi la question de la transparence. On se souvient que la gestion des fonds de lutte contre Ebola ont été détournés. Un ancien ministre de la Santé a même été condamné. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire sur cet aspect-là, de la transparence dans la gestion des maigres fonds disponibles pour la prise en charge de cette épidémie?
Oui, bien sûr. Écoutez, nous parlons beaucoup de Ebola business. Et pendant cette épidémie de l'Équateur, nous avons tout fait pour diminuer donc les effets collatéraux, n'est-ce pas, de la gestion de cette épidémie. Et je pense que nous avons beaucoup amélioré notre façon de gérer. Et dans les années à venir, on n'aura plus de pareils problèmes, n'est-ce pas, de gestion. Évidemment, notre pays, c'est un pays qui connaît beaucoup de problèmes. Et nous avons des retards dans le paiement, n'est-ce pas, des primes. Mais c'est question que tout le monde puisse comprendre que le pays est en difficulté.
Merci beaucoup.
Les moyens sont donc... viennent progressivement.
Merci professeur Jean-Jacques Mouyembe. Et c'est la fin de cette autre édition de Grand Rendez-vous sur Africa Radio. À tout de suite. Merci messieurs.